Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et oui, nous vous retrouvons depuis le train Europe 1 des municipales en direct de la gare de Pau, en direct et en public. Bonjour Franck.
Et oui, bonjour Céline. L'air est pollué chez vous à Paris, Céline.
Ça va mieux.
Eh bien, ce n'est pas le cas du tout ici à Pau, où la qualité de l'air, vous savez, pendant très longtemps a attiré énormément de touristes, notamment des Britanniques. On en parlera tout à l'heure. C'est donc une émission sur fond de chaînes pyrénéennes et de sommets admirables que je vous propose aujourd'hui, même si, pour tout vous dire, le ciel est un petit peu gris à Pau cet après-midi, reconnaissons-le. Avant de commencer cette émission, je voudrais remercier chaleureusement l'opticienne de la place Clémenceau qui m'a sauvé, sinon tout à fait la vie, en tout cas la vue ce matin. Vous avouerez que c'est quand même plus pratique pour présenter une émission comme celle-ci de pouvoir lire des notes et surtout de voir mes invités que je vais vous présenter dans un instant. Pau est la capitale du Béarn, elle a été la capitale de la Navarre. C'est la cité natale d'Henri IV, bien sûr, mais aussi de Bernadotte. On la connaît pour son château, celui de Gaston Phébus, dont on va parler, pour ses parcs magnifiques, pour son funiculaire, pour son boulevard des Pyrénées. Mais vous allez voir que Pau ne se résume pas à cela. Nous allons évoquer sa riche histoire avec notre correspondant en Aquitaine, Stéphane Place, qu'on a l'habitude d'entendre évidemment sur l'antenne d'Europe 1, et avec notre confrère Antoine Michelan de Point de vue qui est notre partenaire pour cette émission d'aujourd'hui, Point de vue dont le nouveau numéro propose un beau portrait de Jeanne d'Albret. Jeanne d'Albret, la mère d'Henri IV, évidemment l'autre enfant du pays, si j'ose dire, que je vais évoquer dans un instant. Et à la fin de l'émission, notre retour aux origines portera sur l'une des plus célèbres traditions paloises, celle du baptême béarnais, à l'ail et au jurançon.
Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Quelques années, j'avais écrit une saga de la Renaissance intitulée La Cour des Dames, et le tome 2, Les Fils de France, était illuminé, si j'ose dire, par la figure tout à fait extraordinaire d'un personnage, sans doute un des plus beaux personnages féminins de notre histoire, même si on a tendance souvent à l'oublier, une femme de caractère et de conviction, certains diront même de trop de conviction, Jeanne d'Albret. On la présente toujours comme la mère de François, d'Henri IV. Moi, je préférerais la présenter d'abord comme une fille, comme la fille de Marguerite d'Angoulême. Marguerite d'Angoulême, la Marguerite des Marguerites, la sœur chérie de François Ier, cette princesse exemplaire, amie des poètes et poétesse elle-même, grande figure du protestantisme, on va y revenir évidemment. Elle avait été mariée dans sa jeunesse au duc d'Alençon, et puis elle était devenue veuve, et elle avait en deuxième noce épousé le roi de Navarre, Henri d'Albret. Eh bien, cette Jeanne d'Albret sera le fruit de leur union. C'était une petite fille très vive, impertinente, une adolescente fière et même farouche, qui ne craindra pas de s'opposer à son oncle François Ier. Je cite Philippe Séguy dans son bel article de Point de vue, dans ce portrait qu'il brosse de Jeanne d'Albret. François Ier a vite compris l'enjeu que représente la jeune héritière, écrit-il. La Navarre ignore la loi salique, la fillette en sera donc une parfaite souveraine, mais dans le giron de la France. François Ier chérit sa nièce, mais n'oublie pas la politique. Il sait que son beau-frère Henri d'Albret souhaite marier sa fille âgée alors de 12 ans au fils de Charles Quint, le futur Philippe II, dans l'espoir de récupérer la haute Navarre annexée par l'Espagne. Aussi s'empresse-t-il de la fiancer au duc de Clèves, Guillaume de la Marck, prince humaniste et mécène. Pourtant, Jeanne se rebelle. Ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est inattendu. Non, elle ne veut pas de ce prince allemand et elle ose dicter devant deux notaires une lettre de protestation virulente. Je m'étais amusé à reconstituer la scène. On est à l'époque, la petite Jeanne d'Albret est élevée en Touraine. François Ier arrive pour lui présenter le duc de Clèves, donc pour lui présenter ce prince allemand qu'il a choisi pour devenir son époux. C'est un homme mûr, évidemment, alors que elle n'a que 13 ans. Voilà ce que j'écrivais à l'époque. Jamais la stature immense de François Ier n'avait paru si impressionnante que ce matin-là, confrontée à cette frêle silhouette de 13 ans. L'oncle vrilla son regard dans celui de sa nièce. Il sortit un papier de son pourpoint, peut-être pour y noter une idée. « À Fontainebleau, vous m'avez dit que vous étiez satisfaite d'épouser le duc de Clèves. Qui donc vous a conseillé de changer d'avis ?» demande le roi. « Je ne savais pas alors le dommage que je causerais à mon père. Mais quel dommage !» Le roi n'entrait pas assez dans les idées de son beau-frère pour partager ce point de vue. Sa nièce s'agenouilla. « Sire, mariez-moi en France, car plutôt que d'épouser le duc de Clèves, je préférerais entrer au couvent. » Jeanne avait dit cela sur un ton bien modeste, mais elle l'avait dit cependant. Et le roi de France, qui savait que son allié patientait dans une antichambre, sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Mais enfin, qui vous a parlé des prétendus dommages que ce mariage causerait à votre père ?» La colère perceptible dans la voix du roi intimida un peu plus la récalcitrante. Il fallut lui poser la question. « C'est un gentilhomme, un gentilhomme, un gentilhomme envoyé à votre majesté par les sujets béarnais de mon père. Ah, les sujets béarnais, le roi de rage froissa la feuille qu'il tenait et la jeta. Il fit deux ou trois fois le tour de la pièce exactement comme un fauve en cage. Puis il trancha. « Vous ferez ce que vos parents, le roi et la reine de Navarre, vous ordonneront. » « Si le roi mon père m'ordonnait d'épouser le duc de Clèves, ce ne serait que pour obéir à votre majesté. » Peu à peu, l'indignation ou bien la conscience de jouer son avenir donnait de la consistance à cette petite voix qui se rebellait. François frappa du poing sur la table. « Mademoiselle, nous vous ordonnerons d'épouser qui vous savez. Plutôt que d'épouser le duc de Clèves, j'irai me jeter dans un puits. » Attendrie par sa propre formule et peut-être consciente de dépasser la mesure, Jeanne fondit en larmes. Elle commit l'imprudence d'aller se réfugier dans les bras de sa gouvernante. « Quant à vous, madame, lui dit le roi, vous me répondrez des grands désordres que je déplore ici. Je ne sais trop quelle cabale s'est fait jour dans ce coin de Touraine, mais je puis vous assurer que s'il le faut, j'y mettrai bon ordre moi-même. » Et de fait, on pouvait s'y attendre, François Ier, bien sûr, va obtenir gain de cause. Le 15 juillet 1541, à Châtellerault, on va marier la petite Jeanne d'Albret au duc de Clèves. Quand je dis on va la marier, c'est vraiment le terme, hein. C'est-à-dire que physiquement, on la porte. Il faut dire qu'elle porte une énorme robe de brocart d'or qui l'empêche de marcher. En tout cas, sa mauvaise volonté est telle qu'elle feint de ne pouvoir marcher. Et à ce moment-là, François Ier aura ce geste qui est resté célèbre dans l'histoire. Il se tourne vers le connétable de Montmorency, qui était déjà en semi-disgrâce depuis plusieurs semaines, et il lui dit « Mais enfin, vous voyez, portez-la !» comme si c'était un laquais, comme si c'était un valet. Et on verra le connétable de France, obligé pour obéir au roi, de porter lui-même dans ses bras la jeune princesse qu'il porte à l'hôtel. Après quoi, il rentrera chez lui pour n'en plus sortir. Ce sera la disgrâce du connétable de Montmorency.
Verdi sur Europe 1, un extrait de l'opéra Orfeo. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Jeanne d'Albret.
Alors Jeanne d'Albret a été forcée d'épouser un homme qu'elle n'aimait pas et qu'elle ne voulait surtout pas comme mari, parce qu'elle savait que ça gênait son père, le roi de Navarre. Le mariage ne durera pas, du reste, c'est l'avantage. Et puis surtout, en 1547, le roi François Ier vient à mourir. François Ier rend son âme à Dieu, nous dit Philippe Séguy dans Point de vue. Son fils Henri II lui succède. Le jeune souverain n'a qu'un désir, conserver sa jolie cousine à sa cour. Il la presse donc de se remarier au plus vite et lui offre le choix entre deux prétendants. François d'Aumale, futur duc de Guise, ou Antoine de Bourbon, le voici, duc de Vendôme, réputé pour son courage indéniable, mais féru de galanterie et joueur. Contre toute attente, Jeanne épouse ce prince âgé de 30 ans à Moulins, l'antique capitale des Bourbons. Des noces sans faste, elle a 20 ans et on la sent heureuse. Elle découvre l'amour. Quand Antoine est absent, elle lui écrit sans relâche. Il répond avec autant de passion. Les postes que je courus hier ne m'ont point tant fâché que l'a fait cette nuit seule au lit sans vous. Ils sont amoureux. Le jeune couple réside, nous dit Philippe Séguy, d'abord à la cour, puis découvre le Béarn dès les premiers mois de 1549. Le problème, c'est qu'à cette époque, Marguerite d'Angoulême, la mère de Jeanne d'Albret, est déjà très malade. Elle est si malade qu'elle ne tardera pas à mourir et qu'elle ne verra pas naître ni son premier petit-fils en septembre 1551, un petit-fils qui va mourir très jeune, vraiment presque au berceau, parce que sa nourrice, il faut dire, l'avait peut-être un peu trop couvé. Sa nourrice n'était autre que celle qui avait d'abord, elle s'appelait Aimée de Lafayette, elle avait d'abord servi elle-même de nourrice à Jeanne d'Albret. Et bien sûr, Marguerite ne verra pas naître son second petit-fils en décembre 1553. C'est lui qui deviendra un jour Henri IV. Alors, à quoi ressemble Pau à cette époque? Eh bien, pour le savoir, il faut ouvrir la belle biographie que Françoise Kermina a consacrée à Jeanne d'Albret chez Perrin. Pau, capitale du Béarn depuis un siècle, nous dit-elle, était encore une bien petite cité, peu peuplée, tout en ruelles obscures et malpropres, plus proche, avec de pauvres maisons de pisé aux toits de chaume, du bourg agricole que d'une résidence souveraine. À part l'hôtel de ville, récente construction datant d'une vingtaine d'années, seul le vieux château des Comtes de Foix, au sommet d'une falaise escarpée, baigné à son pied par les eaux sauvages du Gave, pouvait donner l'idée du pouvoir, de la richesse, de la grandeur et de la liberté. Il datait du Xe siècle, massif donjon de briques aux trois enceintes et cinq tours qui en imposaient de très loin aux voyageurs, mais il avait été considérablement transformé au XIVe siècle par Gaston IV, prince très francisé par un long séjour à la cour des Valois. Il était couvert d'ardoises et ses façades étaient ouvertes à la lumière par de larges fenêtres. Le bâtiment n'avait plus que de lointains rapports avec la forteresse militaire de Gaston Phébus. Henri d'Albret avait achevé cette métamorphose dont, époux d'une femme aussi raffinée que Marguerite, il ne pouvait se dispenser. Grâce à des tailleurs de pierre tourangeaux et à un ferronnier mantouan, le château fut décoré de motifs ornementaux jusque-là inconnus, pilastres, médaillons à l'antique, frises de fleurs et d'animaux fantastiques. L'influence de Fontainebleau n'en était pas absente, ce qui valut au beau-frère du roi de France le surnom de François Ier du Béarn. Ce beau-frère, il va mourir à son tour en 1555. Henri II d'Albret donc meurt et à ce moment-là, Jeanne devient reine de Navarre. Fidèle à l'esprit de sa mère adorée, nous dit Philippe Séguy, la princesse favorise l'implantation de la réforme protestante. Nous y voilà, c'est le cœur même, évidemment, de ce qui va être le règne de Jeanne d'Albret. Mais elle reste dans un premier temps attachée à l'Église catholique et romaine. Cependant, au cours de l'année 1560, probablement sous l'influence de Théodore de Bèze, théologien de renom, tout change. Profondément touchée par la puissance de réflexion de Bèze, la reine se convertit à Noël de la même année. Ça, c'est assez extraordinaire. Cette femme qui, alors qu'elle est maintenant reine souveraine de Navarre, va se convertir au protestantisme. Ça fait un véritable remous dans toute la chrétienté. La mort d'Antoine de Bèze en 1562 va permettre, nous dit Philippe Séguy, à Jeanne une série de mesures visant à implanter la réforme dans le Béarn. Le clergé catholique tente une opposition, elle sera balayée, le culte est désormais interdit et les prêtres sont expulsés. En 1568, la reine Jeanne prend la tête du mouvement protestant. À partir de ce moment-là, on peut bien sûr s'attendre à ce que le bras de fer soit sans concession avec celle qui, à l'époque, est devenue la reine mère, depuis trois ans, la reine mère de France, c'est-à-dire Catherine de Médicis, qui veille sur ses fils, François II, puis, en l'occurrence, Charles IX. On sait ce qui va se passer, toutes les bisbilles entre ces deux femmes qui ne peuvent pas supporter. Puis finalement, l'accord qui va consister à marier Henri de Navarre, le fils de Jeanne d'Albret, celui qui vient d'ici, n'est-ce pas, puisque nous sommes à Pau aujourd'hui, à le marier à la fille de Catherine de Médicis, à celle qui deviendra plus tard la reine Margot. Un mariage en grande pompe à Paris, mariage auquel n'assistera pas Jeanne d'Albret. Décidément, c'est presque une tradition familiale. Elle-même meurt quelques semaines avant. Elle meurt le 9 juin. Le mariage a lieu le 18 août. Et quelques jours après ce mariage, le 24 août, vous savez très bien ce qui va se passer. Ce sera évidemment la terrible nuit de la Saint-Barthélemy.
Rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions sur la ville de Pau par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, nous vous retrouvons Franck Ferrand depuis le train Europe 1 des municipales en direct de la gare de Pau avec vos invités. Et nous sommes au cœur de l'histoire de la ville de Pau où vous vous trouvez, Franck Ferrand, cet après-midi en direct de la gare de Pau dans le train Europe 1 des municipales.
Vous entendez qu'il y a du public, hein, Céline.
Évidemment, et vos invités qui vous accompagnent également, Antoine Michelan, Palois, grand reporter au magazine Point de Vue, et Stéphane Place, grand reporter à Europe 1, notre correspondant permanent dans le Sud-Ouest.
En fait, Stéphane Place, vous êtes souvent ici à Pau, vous, bien entendu.
Oui, peu, assez peu pour parler de l'histoire avec un grand
non,
H, pour poursuivre effectivement l'actualité.
Vous, vous nous faites l'histoire au quotidien. Ça vient d'où d'ailleurs ce nom de Pau?
Alors, Pau, j'ai découvert ça en travaillant, en préparant cette émission-là, et parce qu'en fait, il y a eu un petit débat. Pau, on a cru pendant un moment que ça venait de pieux. Seulement, certains expliquent que ça ne peut pas être ça.
Le terme béarnais pour dire pieux.
Voilà. Oui. Et donc, ça aurait donné Pau.
Mais pieux de quoi? De palissade, de fondation,
ça, hein, exactement. Ça mais en l'occurrence, le nom de Pau a, semble-t-il, émergé bien avant que ce village soit fortifié. Donc, on pense que la racine, c'est plutôt pâle, c'est-à-dire finalement un éperon rocheux. C'est peut-être ça qui a davantage inspiré le nom de Pau, semble-t-il.
Mmh. Bon, en tout cas, comme très souvent, les étymologies, et notamment quand on parle de noms de lieux et de sites, n'est pas tout à fait fixé. Quel est le point de vue des Palois, puisque c'est un peu en tant que Palois que vous êtes ici, Antoine Michelan, au moins autant qu'en tant que grand reporter à Point de Vue.
Absolument. Le point de vue des Palois, c'est qu'il y a effectivement cette étymologie-là. Et en fait, on n'a jamais vraiment tranché parce que sur les armes de la ville de Pau, on retrouve justement les trois pieux, comme on disait également Pau, cette fois-ci, non pas Pal, mais Pau. Et c'est vrai que ces pieux ont soit, est-ce la légende, est-ce la réalité, on n'en sait rien, servi à délimiter le château original qui était fait, bien entendu, de bois, soit désigner les palissades qui cernaient ce château à la fin du Xe siècle.
En tout cas, le promontoire est particulièrement visible. Hein. Il domine complètement cette ville, bien entendu, avec ce château magnifique que connaissent tous les Français, ça on peut le dire. Mais on a l'impression que Pau se résume à son château. Alors ce qu'on va essayer de démontrer dans le cours de cette émission, c'est qu'il y a bien d'autres aspects, à commencer par des espaces verts absolument extraordinaires. On est dans une véritable ville balnéaire et touristique dès le 19e siècle. On parlera de tout ça tout à l'heure. Avant cela, j'aimerais qu'on revienne un instant à notre personnage central, à cette Jeanne d'Albret, qui a marqué de son empreinte et cette ville et ce peuple. On peut parler d'un peuple béarnais?
Ah oui, on peut absolument parler d'un peuple béarnais. De toute façon, c'est une revendication très ancienne que l'indépendance du Béarn, elle commence à se faire jour déjà sous Centule, donc au XIe siècle. Et elle sera réaffirmée régulièrement. Celui qui l'affirmera de façon définitive, certainement, c'est Gaston Phébus, en refusant de prêter allégeance à qui que ce soit à la France, à l'Aragon ou aux Anglais. Par rapport au Béarn, il prêtera allégeance pour ses autres possessions, mais jamais pour le Béarn.
Alors quand on parle à certains Béarnais célèbres, que je ne nommerai pas, campagne électorale oblige, ils reviennent très souvent et très naturellement aux états du Béarn. Il faut expliquer ce que c'est que cette assemblée, d'une certaine manière.
C'est un particularisme unique en France, en fait. C'est-à-dire que très tôt également, au XIe siècle, il y a une revendication, enfin, il y a une administration extrêmement libre, notamment qui vient de la vallée d'Ossau, la vallée d'Aspe, et la revendication d'être gouverné par des syndicats, finalement, et de façon assez démocratique pour l'époque. Et il va y avoir une réclamation, parce qu'on va réclamer des forts aux seigneurs, forts F-O-R-S, qui sont en fait des droits et des libéralités particulières.
Des privilèges, disons,
des privilèges,
peut-être.
Absolument, hein, oui, tout à fait. Et ces privilèges seront accordés au compte-gouttes jusqu'à ce qu'on réclame un fort général qui sera également accordé. Et ça consiste en quoi, en fait? C'est une allégeance réciproque. C'est-à-dire que le seigneur de Béarn va devoir, avant de recevoir l'allégeance de ses sujets, promettre de respecter leur liberté et leurs privilèges. Il ne recevra l'allégeance de ses sujets qu'en retour de cette promesse.
Où siègent-ils ces états de Béarn traditionnellement?
Ces états de Béarn sont itinérants, en fait.
Oui, c'est ça.
Jusqu'à ce que ils vont siéger assez longtemps à Orthez, puis après à Pau. En fait, à partir de 1464, je crois.
72, moi j'avais, mais enfin, oui, possible, oui.
Enfin, les deux dates circulent de toute façon. Il n'y a pas de certitude absolue, mais à partir de 1464 ou 72, on a Pau qui est instauré comme capitale de Béarn. Et là, vraiment, ça va s'installer à ce moment-là.
On voit encore la trace d'une dimension particulière à Orthez aujourd'hui, Stéphane Place.
Plus vraiment. Je crois vraiment que c'est ancré dans les esprits qu'effectivement, à cette époque-là, ce que vous soulignez, c'est Pau qui va devenir le centre de gouvernement, de décision, même si la vie politique à cette époque-là, avant que ces décisions ne soient prises, elle était effectivement à Orthez. Elle n'était pas du tout à Pau. Et on va donc aménager le château, donner toutes les marques du pouvoir pour installer symboliquement les états du Béarn ici. La plupart des sessions vont se dérouler d'ailleurs effectivement à Pau. Et à partir de ce moment-là, Pau devient le centre de décision et de gouvernement.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est dans une zone géographique très particulière. Bon, d'abord, on est tout près des Pyrénées, qui sont tellement beaux et tellement visibles d'ici. On est sur ce gave de Pau, dont il faut peut-être dire un mot, et sur les fameux trois guets qui, au Moyen-Âge, ont joué un rôle essentiel. C'est-à-dire qu'on est dans une position stratégique déterminante ici, cruciale, disons.
Voilà, sur le gave de Pau, en fait, il y avait trois guets sur 50 km à peine.
Ouais, voilà, donc c'était difficile de traverser.
Voilà, dont le guet central est en Pau, justement, donc un point tout à fait stratégique. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il y a eu la construction du premier château, et pour contrôler un petit peu ce guet, le passage notamment des bergers qui venaient de la vallée d'Ossau, et pouvoir également contrôler une route qui était par définition stratégique, puisqu'un point obligé.
Alors,
un passage obligé.
Pau a subi, on ne va pas revenir sur tous les soubresauts d'une longue et passionnante histoire du reste, mais Pau a subi un certain nombre d'invasions. Les Anglais ont souvent été là, aux portes, si je puis dire, hein, et même un peu au-delà.
Ben, les Anglais ont toujours été là, enfin, toujours à partir du XIIe siècle, à partir du moment où il y a le mariage d'Henri de Plantagenet avec Aliénor d'Aquitaine, la présence anglaise va être récurrente au fil des siècles, même si ils renonceront plus tard à l'Aquitaine. Et on les retrouvera également au XIXe siècle grâce à Napoléon, en quelque sorte.
Oui. Alors, nous allons venir tout à l'heure au XIXe siècle, mais avant ça, il nous reste à parcourir un certain nombre d'épisodes très importants de l'histoire de Pau. Et le personnage le plus célèbre, le palois le plus célèbre du monde, ça reste évidemment Henri IV.
Nous vous retrouvons, Franck Ferrand, dans le train européen des municipales, en direct de la gare de Pau, en direct et en public, avec vos invités, Antoine Michelon, palois, grand reporter au magazine Point de Vue, et Stéphane Place, grand reporter à Europe 1, notre correspondant permanent dans le Sud-Ouest.
Et oui, alors nous parlions de cette famille d'Albret. Ce qui est essentiel, c'est le protestantisme. J'ai parlé de la réforme, du rôle de Marguerite, la sœur de François Ier, du rôle évidemment de sa fille Jeanne d'Albret, qui va se radicaliser au cours de son règne et qui finit en véritable leader protestant à l'échelle de l'Europe. C'est un personnage essentiel, Antoine Michelon.
Absolument. C'est-à-dire que sa mère avait ouvert la voie, en effet, en étant très sensible aux idées nouvelles, sans jamais franchir le pas. Elle-même va le franchir progressivement, puisqu'elle va commencer par baptiser le futur Henri IV dans la foi catholique.
Mm-hmm. Mais, Nous verrons comment tout à l'heure, d'ailleurs.
Absolument. Mais très vite, elle va elle-même progresser dans les idées nouvelles et vouloir les imposer de façon assez radicale, en effet, à ces sujets. Ce qu'elle fera en interdisant le culte catholique, ce qui entraînera bien sûr des représailles de la part de la Cour de France, une prise de Pau.
Ça fait un peu penser à ce que fait Henri VIII en Angleterre quelques décennies plus tôt.
Absolument.
Dans le même genre d'attitude, c'est la crispation, ce sont les guerres de religion. Voilà. Et évidemment, le fils de Jeanne, Henri de Navarre, celui qui va devenir le roi de France sous le nom d'Henri IV, incarne ces guerres de religion qui prennent ici une tournure particulièrement dure.
Hein. Absolument. Mais c'est-à-dire qu'Henri, ce qui est assez amusant, qui est un homme à femme, comme chacun sait, le galant, est un homme qui a commencé par être déchiré entre les femmes, Catherine de Médicis et entre sa propre mère. Il est baptisé catholique. Après, la Cour de France, il est sommé de devenir protestant. Il va changer de religion comme
plusieurs fois.
Au gré, bien sûr, de ses intérêts politiques, mais aussi des pressions qui sont faites sur lui et qui sont tout à fait considérables.
En fait, Henri IV est le grand personnage de Pau, Stéphane Place. C'est la figure emblématique locale. Et on se rend compte, quand on regarde les choses de très près, qu'il n'y a pas vécu tellement.
Pas vraiment, parce que quasiment dès sa naissance, d'abord, il a été confié à des nourrices à Coiraz. Alors, c'est pas très loin, mais enfin, c'était pas à Pau. Et puis, dès l'âge de 6 ans, eh ben, il va aller faire son apprentissage et rejoindre la cour. Et finalement, il ne reviendra qu'assez ponctuellement dans le Béarn. Et il a sans doute, il avait sans doute beaucoup plus de souvenirs de sa vie parisienne que béarnaise.
On en parlait ce matin en arrivant. Est-ce qu'il y a ici encore une forte empreinte protestante dans cette région en général et dans cette ville en particulier? Vous avez l'impression que les protestants jouent un rôle à côté de Bordeaux, la catholique où vous résidez, vous, par ailleurs.
Oui, et pour autant, notamment dans le monde du vin, on dit beaucoup que cette empreinte-là demeure.
Oui, il y a aussi, c'est vrai, il y a aussi
demeure,
beaucoup de protestants.
Et il y a de toute évidence, oui, bien sûr, encore quelque chose qui demeure de cette empreinte-là, évidemment.
Mais cette empreinte, elle a peut-être marqué aussi, on pourrait presque dire, l'esprit palois. Antoine Michelon.
Absolument, même d'ailleurs on le retrouve dans le... On parlait tout à l'heure des états de Béarn et du Conseil souverain. Et bien justement, lorsque Jeanne III d'Albret décide d'imposer le protestantisme, elle fait en sorte que les conseillers et les membres des états de Béarn qui sont catholiques soient remplacés par des protestants.
Oui.
Ça, c'est quelque chose d'assez radical aussi, et qui montre bien qu'on va se retrouver un petit peu à l'inverse du reste du royaume, avec le protestantisme imposé, comme à Paris, on essaie d'imposer le catholicisme.
Alors, le paradoxe, c'est que lorsque le roi de Navarre devient en même temps roi de France, on se dit, alors là, ça va être pour Pau, et d'une façon plus générale pour le Béarn, pour la Navarre, ça va être la gloire totale. C'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que le roi d'ici s'en va là-bas, si je puis dire. Il devient le roi de France et sans délaisser pour autant les Béarnais, il ne s'en occupe plus autant. On va voir peu à peu sous Louis XIII, sous Louis XIV, qui pourtant sont les dignes fils et petits-fils d'Henri IV, on va voir Pau tomber dans une forme de léthargie.
C'est-à-dire que, en fait, Henri IV préserve quand même beaucoup les libertés du Béarn et il y tient beaucoup. En fait, le Béarn va être gouverné par sa sœur. Oui. Essentiellement, mais il gardera volontairement les deux couronnes distinctes.
Il y a une chose dont il faut parler,
on
parle toujours de l'édit de Nantes, qui est un édit de tolérance destiné aux protestants en région catholique, mais il faudrait peut-être parler de l'édit de Fontainebleau.
Absolument, qui le suit d'un an, je crois, et Henri IV a à cœur, comme il a autorisé les sujets protestants en terre catholique à exercer leur culte, de faire en sorte d'aller au contraire des volontés initiales de sa mère, c'est-à-dire d'obliger les Béarnais à respecter les catholiques qui vivent sur le territoire. Ça sera au départ assez théorique parce qu'il faudra quand même pas mal de temps et notamment Louis XIII s'y emploiera pour que cet édit de Fontainebleau soit appliqué effectivement, mais ça n'en restera pas moins un geste tout à fait symbolique de l'équité et de sens de l'équilibre qui sont très béarnais justement comme manifeste Henri IV.
Alors, j'ai dit tout à l'heure que les Anglais étaient très présents dans la région, ils l'ont été avec Aliénor d'Aquitaine évidemment. Au moment des guerres napoléoniennes, ils sont de nouveau là et cette fois ils y sont physiquement présents.
Oui, c'est-à-dire que là, l'indépendance de Béarn n'est plus qu'un souvenir depuis la Révolution. Et en fait, effectivement, les Anglais passent par là, notamment les troupes de Wellington venant d'Espagne, où l'armée napoléonienne est défaite. Et il va y avoir bien sûr la bataille de Toulouse, il va y avoir une bataille à Orthez. Il n'y aura pas de bataille à Pau, mais néanmoins, Wellington et ses hommes passent par là. Et entre deux batailles, se détendent en faisant de la chasse au renard, comme ils le font chez eux. Ils trouvent que les Landes sont tout à fait sympathiques et rappellent un petit peu l'Écosse et ils trouvent ça tellement sympathique que de nombreux vont revenir après les guerres napoléoniennes.
Et puis alors, ils découvrent un climat très particulier, une pureté de l'air, une intensité particulière de la lumière, avec évidemment en toile de fond toujours ce rideau pyrénéen particulièrement majestueux. On sait, c'est une tradition, que vous savez, quand vous voyagez quelque part dans le monde, on vous dit, cherchez où sont les villas anglaises, ce sont les plus beaux endroits. Les Anglais ont ce don extraordinaire. Ils ont découvert Pau, ils ne vont plus lâcher Pau, si je puis dire. Au 19e siècle, ça devient... j'allais dire une colonie. En tout cas, ça devient un lieu de villégiature britannique ici.
Absolument. Après les troupes de Wellington, il y a eu un autre grand publicitaire, si je puis dire, en faveur de Pau, c'est le docteur Alexander Taylor, qui arrive ici vers 1833, je crois, après avoir participé. Il est malade lui-même. Il a participé à la Légion des volontaires anglais pendant les guerres carlistes. Et il vient soigner ici et trouve que l'air est excellent, notamment pour les tuberculeux. Il y a pas mal de tuberculeux, notamment d'une bonne société britannique, en France aussi. Et il écrit un livre où il recommande à ses compatriotes de venir ici et il est tout à fait écouté également. Donc à partir des années 1840, essentiellement, la colonie britannique devient de plus en plus importante, a besoin de retrouver ici ses loisirs, d'où la création du Pau Hunt, justement, qui est le seul équipage encore aujourd'hui, le seul équipage de chasse au renard, enfin au dragon thing, c'est-à-dire
mais
au leurre.
Qui est encore en
qui
fonction.
Qui est encore en activité aujourd'hui,
ça,
absolument.
Ça ferait un beau reportage, ça,
c'est,
Stéphane.
C'est tout à fait. Avec de belles choses à raconter. Oui, c'est spectaculaire.
D'autant que c'est une chasse no-kill, donc il n'y a pas de, on ne tue pas de renard. C'est uniquement un événement sportif. Et donc, ceci se met en place. Il y a ensuite, très vite après, pardon, la création du club de golf, qui est le deuxième plus ancien au monde après Saint-Andrews, et bien sûr le plus ancien du continent. Et puis le cercle anglais de Pau, à peu
voilà.
près
alors,
vers 1856.
Et puis, donc il y a ce golf, jardin botanique, des parcs partout. On a l'impression justement qu'il y a quelque chose de la culture anglaise, il y a quelque chose du vert anglais dans ce coin-ci.
Hein. Clairement, les Anglais, ce que l'on vient d'évoquer, ont cultivé cela, l'ont installé dans la ville. D'ailleurs, la communauté britannique était assez importante. C'était pas la haute aristocratie, hein. Je crois qu'ils préféraient déjà les littoraux, mais on avait effectivement une présence britannique qui était très très importante et qui a marqué de sa culture, de ses pratiques, de ce goût du chic.
Avec un hippodrome notamment, il ne faut pas oublier, qui est aujourd'hui encore un des principaux lieux de course en France.
Et qui suscite d'ailleurs l'intérêt au moins d'un candidat à la municipale,
oui.
qui s'est toujours beaucoup intéressé aux chevaux. Il y a ce golf qui est sans doute l'un des plus beaux et sans doute aussi l'un des plus chics de France. Donc cette empreinte anglaise, et puis on le voit à travers les villas qui demeurent.
Alors, il y a un autre aspect qu'on a tendance à négliger. Bon, pas moi, parce que c'est l'un de mes domaines de spécialité. J'ai eu l'occasion de le dire assez souvent à ce micro. Mais on va y revenir dans un instant, parce qu'il ne faut pas oublier que Pau a aussi été l'un des berceaux, non seulement de l'aéronautique, mais également de l'automobile. On y vient dans un instant.
Toujours en direct du train Europe 1 des municipales depuis la gare de Pau, ville dont vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, avec vos invités Antoine Michelan, palois, grand reporter au magazine Point de Vue, et Stéphane Place, grand reporter à Europe 1, notre correspondant permanent dans le Sud-Ouest.
Alors ce qui est amusant, Céline, quand on arrive comme ça, comme nous l'avons fait, nous sommes arrivés ce matin seulement pour l'émission, c'est qu'en quelques minutes seulement, on est déjà dans l'ambiance d'une certaine manière. Il a fallu qu'on monte deux ou trois fois sur le plateau, là bien donc on a pris le funiculaire, on est passé de deux ou trois fois devant un restaurant qui s'appelle Les Trois Mousquetaires. L'empreinte de D'Artagnan est présente encore ici.
Oui, sans le doigt Alexandre Dumas, parce que si le vrai D'Artagnan est Gersois, dans le roman d'Alexandre Dumas, on trouve justement qu'il déclare que D'Artagnan est béarnais, ce qui bien sûr fera toujours plaisir au palois. De même d'ailleurs que les autres mousquetaires, dont les noms, Porthos et un monsieur de Porto qui était effectivement de Béarn, sont inspirés du Béarn.
Il y a un type de maison aussi, hein. C'est pas la maison basque ici, il faut pas se tromper, hein. Il y a une architecture particulière, il y a les fameux galets sur les façades, il y a des choses comme ça.
Absolument, on retrouve par exemple les galets du Gave qui ont servi d'une part pour le pavement autrefois, et également qui ont servi pour nombre de maisons anciennes, notamment celle de Bernadotte.
Alors voilà, oui, il faut dire un mot de Bernadotte, parce que c'est vrai que c'est un peu le parent pauvre. On parle toujours d'Henri IV et jamais de Bernadotte. Grand personnage, passionnant, auquel on a consacré une émission il y a quelques mois et qui est une des figures les plus romanesques du 19e siècle, en vérité. Hein.
Absolument. Parce que quel dessin que le sien. D'abord, officier de Napoléon, puis ensuite roi. Roi de Suède sous le nom de Charles XIV, c'est une aventure inouïe, en fait, qu'aucun romancier n'aurait osé imaginer d'ailleurs.
Alors c'est à Pau, il ne faut pas l'oublier, d'ailleurs j'ai lu en feuilletant la presse locale ce matin qu'une statue va bientôt être inaugurée à leur mémoire, enfin en l'occurrence un groupe statuaire, les frères Wright, les fameux frères américains qui sont parmi les pionniers de l'aéronautique, je dis parmi les parce que je n'oublie jamais notre Clément Ader national, évidemment, les frères Wright ont fait leurs essais, ici même on voit décoller les premiers engins de l'histoire de l'humanité dans ce paysage palois. Hein,
absolument, et notamment à cause de la qualité de l'air, parce qu'il y avait assez peu de vent, ça permettait à ces avions qui étaient quand même très fragiles de décoller plus facilement, et en fait en 1908-1909, il crée ici la première école d'aviation.
Peut-être qu'il y a un rapport avec... Alors d'abord, il y a des industries mécaniques locales liées notamment à ça. Et puis, il y a ce tourisme très implanté par les Britanniques. On sait que l'Automobile Club recommande un grand nombre d'adresses parce que c'est une belle adresse, un bon endroit pour la gastronomie également. Et donc, l'automobile va se développer particulièrement dans cette région. Il en reste quelque chose, c'est le Grand Prix, Stéphane Place.
Hein. Oui, c'est vrai que ça reste effectivement un rendez-vous important. Et puisque vous vous disiez par ailleurs sur l'aviation et l'aéronautique, il y a eu également au début de la Première Guerre mondiale des pilotes prestigieux qui sont venus s'entraîner ici parce que les terrains d'aviation du Pont Long étaient le principal lieu de formation des pilotes. Donc on a vu passer Ningesser, Roland Garros, enfin voilà. Et puis aujourd'hui, il y a effectivement toujours dans ce domaine d'activité mécanique et aéronautique des industries importantes avec notamment les hélicoptères que l'on voit d'ailleurs, les hélicoptères militaires. Souvent quand on arrive à Pau, il n'est pas rare d'en voir traverser le ciel palois puisque les militaires continuent évidemment à s'entraîner ici.
C'est une région d'implantation des parachutistes, il faut dire. Ici, il y en a à Tarbes, mais aussi ici à Pau, il y a notamment des centres de formation, un grand nombre des
centres de formation, l'école des troupes aéroportées qui a toujours été à Pau et qui demeure à Pau absolument.
Évidemment.
Donc chaque officier qui vient se faire ou soldat qui vient se faire breveter parachutiste passe par Pau normalement et a donc le plaisir de sauter face à la superbe chaîne des Pyrénées.
Donc quand même toute cette dimension très très actuelle et très industrielle à laquelle il faudrait joindre tous les équipements d'exploitation du gaz de lac aussi. On est tout près là.
20 kilomètres.
Ben oui, c'est 20 kilomètres.
De près.
Ah oui, c'est même encore plus près que ce que je visualisais, vous voyez.
Quand le vent porte, on a même parfois quelques odeurs de soufre.
Ah oui. Et alors donc, ça joue un rôle important aussi dans le développement local, bien sûr.
Absolument. Vous savez, les gisements de gaz de lac ont permis l'implantation de beaucoup d'industries pétrochimiques à Pau dans les années 50 et 60 notamment, qui perdurent encore aujourd'hui. Il y a l'ancienne SNPA qui maintenant, je crois, est la SNEAP. Et c'est vrai que ça a joué un rôle tout à fait considérable, de même que le fait qu'il y ait des pionniers de l'aviation ici a certainement joué dans l'installation de Turboméca notamment.
Alors c'est curieux parce que ce tourisme de luxe, ce côté extrêmement en pointe à travers l'aéronautique et l'automobile. Alors on n'a pas vraiment parlé du Grand Prix, hein, mais enfin ça,
on en reviendra.
Il est très important.
Hein. Oui, c'est un rendez-vous que les amateurs il faut dire par ailleurs, Franck, que les Grands Prix automobiles, il y en a de moins en moins. Évidemment un lieu de rendez-vous pour les amateurs important.
Mais alors on a l'impression que depuis, un bon demi-siècle, tout ça est un petit peu retombé d'une certaine manière. Quelle est aujourd'hui l'activité principale à Pau et de quoi cette ville vit-elle aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une activité qui domine sur les autres?
Il y a toujours la SNEAP qui est là, toujours Turboméca. Donc il y a toujours cette activité-là qui est née dans les années 50 et qui perdure, même si effectivement les gisements de gaz ne sont pas inépuisables. Et puis
Il y a un centre de recherche autour de ces activités-là qui est très développé par ailleurs. Hein. C'est quand même, ça compte énormément. Et effectivement, alors c'est assez intéressant de voir la trajectoire historique. On évoquait tout à l'heure l'importance extraordinaire qu'a pris le tourisme à une certaine époque. Et aujourd'hui, on en parle un peu moins, alors qu'en réalité, ça continue quand même à attirer beaucoup de gens. Certes, c'est plutôt le littoral et la proximité de la côte basque qui attire finalement des vacanciers. En tout cas, c'est à cela que l'on pense. Mais en réalité, il y a beaucoup d'amateurs de montagne, de
randonnée. Pau est la porte des Pyrénées, comme dit la brochure.
Exactement, comme le slogan. Ouais, c'est ça. Pau, porte des Pyrénées, ça définit quand même très très bien la ville.
J'ai entre les mains un ouvrage qui a été publié au Seuil, un récit de Jean Touillarot, dont la quatrième de couverture nous dit « Pendant toute la Seconde Guerre mondiale, l'hôtel continental de Pau, d'abord situé en zone libre, alors bon, évidemment jusqu'en novembre 42, a recueilli des dizaines et des dizaines de réfugiés, parmi eux de nombreux juifs traqués par Vichy et les nazis, qui tentaient de gagner l'Espagne toute proche et bénéficiaient de la complicité du personnel hôtelier. L'ouvrage s'appelle « L'hôtel des ombres » et vous l'avez lu, Stéphane Place.
Oui, je l'ai parcouru. Alors c'est Jean Touillarot, il faut le préciser, c'est le fils en fait du gérant de l'époque.
Ah oui,
il avait une dizaine d'années et donc à partir
Oui, parce qu'il est né en 31, lui.
C'est ça. Et à partir de cette histoire qui paraît assez incroyable, mais enfin qui est vrai, et de ses propres souvenirs, eh bien donc il a écrit ce récit et on découvre donc cette page de l'histoire paloise qui est effectivement tout à fait intéressante et que l'on recommande. Oui, l'hôtel des ombres, l'histoire de l'hôtel continental.
Oui, c'est une page plus récente d'une histoire qu'on a tendance à surtout ouvrir au chapitre de Jeanne d'Albret, d'Henri IV et des guerres de religion, évidemment.
Oui, puis se souvenir au passage que Daniel Cordier qui joue un rôle particulièrement important,
bien sûr, le secrétaire de Jean Moulin,
sa famille était paloise. Et quand on lit l'histoire, alias Caracalla, on s'aperçoit que son destin part d'ici, bascule ici, évidemment.
Alors j'ai parlé des parcs très agréables. Le casino a été été restaurée récemment. Il y a toute cette dimension-là. Quand on vient en tant que touriste à Pau, il nous reste très peu de temps pour l'évoquer, mais enfin quand même quelques mots. J'aimerais bien que le palois Antoine Michelan nous donne ses conseils. Qu'est-ce qu'il faut visiter? Il faut aller au château. Bon, ça paraît une évidence.
Bien sûr.
Il faut aller au-dessous de du château. Il y a la tour de la Monnaie. Ça, c'est l'ancien.
C'est celui où on battait monnaie, justement, voilà, ouais. Qui a été d'ailleurs construit par Phébus.
Mm-hmm, Gaston Phébus, oui.
Absolument. Après,
symbole de la souveraineté béarnaise.
Oui, il y a tout le quartier du château. Il y a les maisons de Sully, la maison du maréchal de Gassion.
La maison de Bernadotte, dont vous nous avez dit un mot.
Bien sûr, qui est un petit peu plus loin, qui est à côté de l'église Saint-Jacques, qui est de l'autre côté du Hédas, en fait.
Et le Parlement de Navarre.
Le Parlement de Navarre, bien sûr. Même si maintenant le Conseil général a migré un petit peu plus bas, il reste l'ancien Parlement de Navarre, qui est toujours visible et qui est un très beau bâtiment. Et puis, il faut également se perdre dans les rues de la vieille ville, qui sont très agréables et qui ont gardé beaucoup de caractère. Bien sûr, le boulevard des Pyrénées, ce magnifique boulevard des Pyrénées, qui a été d'abord ouvert par Napoléon quand il est venu en 1808, il a dit, mais c'est absurde. Il y a la place royale, enfin, qui à l'époque était place Bonaparte, je crois. Ça a changé de nom au fur et à mesure des régimes et qui était barré par un mur. Donc, on ne voyait pas les Pyrénées de cette place qui était fort agréable. Donc, il a fait acheter les terres et les jardins, il a fait abattre le mur et ça a été la première ouverture sur les Pyrénées pour tout un chacun. Ensuite, il y a eu le boulevard du Midi qui a été ouvert sous Napoléon III jusqu'à vers le château. Et ensuite, donc, le projet dont parlait Stéphane, qui a été ce grand boulevard des Pyrénées complet jusqu'au parc Beaumont, où est maintenant le casino, justement.
C'était la promenade des Anglais fallait à Pau,
c'est
finalement.
C'était
ce que Lamartine appelait Pau est la plus belle vue de terre, comme Naples est la plus belle vue de mer. Il écrivait ça, je crois, en 1838, alors qu'il n'y avait déjà que le petit bout, en fait, de la place royale. Et c'est vrai que beaucoup de poètes ont apprécié cette...
Un certain nombre de poètes sont nés ici, ou en tout cas ont des racines ici. Alors, on pense à Paul Jean Toulet, ça c'est une évidence, hein. C'est le palois par essence. Vous parliez de sa maison, évidemment. Jules Supervielle est né d'un père béarnais d'une mère basque. Alors, il est né à Montevideo, certes, oui. Mais enfin, il joue un rôle ici, incontestablement.
Absolument, en Béarn, en tout cas.
Saint-Jean-Perse,
lui...
Il n'est pas né à Pau non plus, évidemment, il est venu faire son service militaire.
Il est venu faire ses humanités, puisqu'il était au lycée
Partout,
ici, ensuite son service militaire. Je ne sais pas si Pau a joué un grand rôle dans son œuvre, mais enfin, il a passé quand même d'assez nombreuses années.
On pourrait citer aussi Lautréamont.
Citer Lautréamont, qui est venu faire également ses études ici, lui aussi né à Montevideo, d'ailleurs. Et puis Alfred de Vigny, qui a rencontré l'amour ici à Pau, notamment Place Royale, en regardant le boulevard des Pyrénées. Il a rencontré sa femme quand il était en garnison à Bayonne, à Pau.
Est-ce que quand vous venez ici, Stéphane Place...
Est-ce que j'ai trouvé l'amour dans ma vie ici?
ça, je vous poserai la question dans 10 minutes, quand nous ne serons plus à l'antenne.
Mais
est-ce que vous avez l'impression de trouver une ville qui présente encore sa singularité, sa spécificité? Est-ce qu'il y a un esprit, est-ce qu'il y a une atmosphère paloise?
Je pense qu'il y a un esprit. Il y a aussi la revendication très forte d'une identité béarnaise. On est dans un département où il y a deux identités très fortes. Parce que l'entité administrative des Pyrénées-Atlantiques, il ne faut pas l'oublier, c'est le Béarn et c'est le Pays Basque. Et donc on a là, effectivement, deux identités très fortes. Et aujourd'hui, à Pau plus particulièrement, et d'ailleurs on aura l'occasion d'en parler ce soir dans le train européen des municipales ici en gare de Pau avec Nicolas Poincaré, il y a la question, l'idée de réenchanter cette ville, de lui redonner une place.
Vous avez remarqué combien je tournais autour du pot pour vous poser la question, parce que je ne veux pas être désobligeant. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a un énorme potentiel dont on a l'impression qu'il n'est pas toujours...
Mais les Palois en sont conscients. En reportage, on entend régulièrement des Palois dire « moi j'adore ma ville ». Et il y a des raisons pour l'aimer, hein. Il suffit de se balader par exemple sur le boulevard des Pyrénées, on en parlait tout à l'heure. Mais il y a aussi effectivement une inquiétude parce que le centre-ville notamment n'est plus aussi attrayant qu'il ne l'a été.
Petite histoire de Pau de Dominique Bideau-Germa, ça nous a servi à préparer cette émission, c'est des éditions Cairn.
Très bien.
Je citerai également, donc nous avons cité de Jean Touillarot l'Hôtel des Ombres au Seuil. Je me suis servi aussi de la biographie de Jeanne d'Albret par Françoise Kermina aux éditions Perrin. Jeanne d'Albret, la mère passionnée d'Henri IV. Jeanne d'Albret qu'on retrouve dans les colonnes de Point de Vue du numéro qui sort aujourd'hui et demain.
Demain, en kiosque, en tout cas. Vous l'avez en exclusivité.
Ce portrait de Jeanne d'Albret par notre ami commun Philippe Séguy. Merci beaucoup Antoine Michelan.
Merci
beaucoup Stéphane Place.
Vous êtes sur le train
tout à l'heure.
Tout à fait. On est sur le train à l'allure du train, et puisque vous vous posiez la question, le prochain Grand Prix de Pau, maintenant qu'en plus vous y voyez parfaitement, on pourrait peut-être piloter, le prochain Grand Prix aura lieu le 9, 10 et 11 mai.
Merci beaucoup à tous les deux.
instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Louise qui souhaite connaître l'origine du baptême béarnais.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Louise, qui nous l'a envoyée via le site internet d'Europe 1. Elle aimerait en savoir plus sur la tradition liée à la naissance d'Henri IV.
Eh oui, on raconte toujours, vous savez, alors vous connaissez le fameux berceau d'Henri IV, hein, cette énorme carapace de tortue qui a bien failli disparaître à la Révolution, mais qui a été, grâce à de bonnes âmes bien chrétiennes, protégée, mise de côté avant d'être restituée à la monarchie restaurée. On a tendance à mythifier un peu le baptême d'Henri IV, parce qu'il ne faut pas oublier que Henri IV est le deuxième enfant, bien sûr, d'Henri et d'Antoine de Bourbon et de Jeanne d'Albret, donc la fille de Marguerite. Et je vous en ai parlé tout à l'heure. Ce baptême a lieu le 13 décembre 1553. Plutôt que d'un baptême au sens propre, d'ailleurs, c'est d'une bénédiction qu'il faudrait parler de naissance, bien entendu. Alors, la tradition béarnaise voulait deux choses. D'une part, que la parturiente, la mère, pendant son accouchement même, s'encourage et soit encouragée par les sages-femmes sur un air, la chanson béarnaise de Notre-Dame du bout du pont. Notre-Dame du bout du pont, aidez-moi à cette heure, priez le Dieu du ciel qu'il veuille bien me délivrer d'un garçon qu'il me fasse don jusqu'au haut démon, je l'implore. Voilà ce qu'a crié, ce qu'a imploré justement notre reine de Navarre. Et puis, alors ça on y vient évidemment, dès la naissance, le grand-père, donc en l'occurrence c'était le grand-père Henri d'Albret, va passer une gousse d'ail sur les lèvres de l'enfant et il va lui faire respirer, certains disent absorber, quelques gouttes de vin. Voilà ce qu'on appelle le baptême béarnais. Ça n'est pas n'importe quel vin, parce qu'à l'époque, vous savez que le vin ne se transporte pas facilement. Donc, on va utiliser le vin local, celui du grand-père en question, le Jurançon. Et ça va devenir une tradition qui ensuite sera reprise pour les baptêmes de tous les petits Bourbons, de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI, etc. Et comme ça, jusqu'à Charles X et même au-delà.